des discussions du soir. Les discussions du soir, chaque jeudi, Antoine Garapon, ancien juge, s'empare des grands dossiers et des défis de la justice.
Je reçois ce soir Sévan Garibian, qui est professeur de droit à l'université de Genève et de Neuchâtel et qui est spécialiste des crimes de masse et de la mémoire. Bonsoir Sévan Garibian.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, je vous ai présenté comme juriste, vous êtes professeur de droit, ça c'est vrai, mais vous venez de publier, d'éditer, un livre qui porte sur la mort du bourreau, le corps du bourreau, je devrais dire, qui est un sujet quand même assez particulier, parce qu'en général, un juriste s'intéresse à la responsabilité des vivants ou aux victimes qui sont décédées, mais là, c'est tout à fait autre chose, la question du corps.
Il s'agit effectivement de renverser un petit peu notre regard de juriste, pour le plaisir déjà de travailler dans l'interdisciplinarité, c'est-à-dire en collaboration
avec...
Parce que
c'est un sujet qui concerne autant l'histoire, l'anthropologie...
Exact, le droit, l'histoire, l'anthropologie, la sociologie...
La médecine légale.
L'expertise forensique, la psychologie, la littérature dans l'imaginaire de ce que véhicule l'image du bourreau également. Et j'avais ce souci de mettre en dialogue des personnes qui vont nous parler de la problématique du corps mort du bourreau à partir d'un monde qui est le leur, d'un monde disciplinaire qui n'est pas forcément le mien en tant que juriste.
C'est ça, la mort du bourreau. Alors, il y a plusieurs morts du bourreau. Et en fait, je pense que tous les auditeurs auront immédiatement en tête Milosevic, Mussolini, dans le fond, pratiquement Pol Pot, pratiquement tous les dictateurs, tous les bourreaux, alors on viendra sur cette expression de bourreau, ont eu une fin particulière, parfois une mort échappatoire.
Ils ont
échappé à la justice.
Absolument. Que ce soit une mort échappatoire pour qui laisse derrière leur fin de vie une sorte de sentiment d'impunité auprès des victimes, ou que ce soit une mort sentence lorsqu'il s'agit d'une mort dans le cadre judiciaire, par exemple.
C'est Nuremberg.
Nuremberg ou Saddam Hussein, souvenez-vous, suite au jugement du tribunal pour l'Irak. Tribunal par ailleurs contesté, mais il n'empêche que ça a donné lieu à une pendaison.
Oui, on peut se demander même si l'objectif n'était pas de se débarrasser, comme pour Ben Laden d'ailleurs, pour Ben Laden.
Alors absolument. Bien sûr, Ben Laden, par exemple, vous avez raison de le souligner, alors lui, exécution extrajudiciaire, c'est-à-dire qu'il s'agit en fait d'un assassinat en dehors du cadre d'un procès pénal ou d'une sentence judiciaire. Et dans tous ces cas, aussi différents soient-ils, ce qui m'a saisi et ce qui m'a en fait donné envie de produire un ouvrage interdisciplinaire sur cette problématique-là, c'est que ces morts ne sont jamais anodines, même lorsqu'il s'agit de morts naturelles. C'est-à-dire un décès suite à une maladie, par exemple.
Oui, parce qu'on a l'impression que même si la théorie des deux corps du roi, le corps symbolique et le corps physique, était une théorie qui s'appliquait au souverain légitime, là, on a l'impression que ces dictateurs, ces bourreaux, portent sur leur corps beaucoup plus que leur corps propre. En fait, ils incarnent un régime, ils incarnent aussi un régime d'horreur.
Criminel, une politique criminelle. Ils incarnent un régime politique. Ils incarnent une politique criminelle. Ils portent en eux, en quelque sorte, les corps de leurs innombrables victimes, qui sont le plus souvent des corps suppliciés, niés, détruits, disparus, parfois, lorsqu'il s'agit d'une politique de disparition forcée, suppliciés. Et on comprend mieux pourquoi... Au moment où eux-mêmes meurent, c'est-à-dire lorsque le bourreau disparaît, c'est un moment absolument cathartique pour les victimes et plus généralement pour la société au sein de laquelle cette mort s'inscrit. Que faire de ce corps? Et puis, il y a ce sentiment d'avoir envie de venger les victimes, c'est-à-dire que le corps du bourreau soit à son tour souillé, supplicié, torturé. Parfois, souvenez-vous
c'est
de ce qui s'est fait de Kadhafi,
c'est Kadhafi.
2011. Après Ben Laden, on a la fin de Kadhafi.
La fin de Kadhafi, c'est quand même lui qui a été un dictateur absolu, on pourrait dire sanguinaire.
Oui.
Il est récupéré dans des conditions ubuesques.
Absolument.
Et lynché.
Lynché publiquement. Et là, vous voyez la force de la catharsis. C'est-à-dire qu'il s'agit d'humilier, de souiller, souvenez-vous, les scènes de sodomie, également, du corps de Kadhafi. La volonté de l'humilier, de le souiller aux yeux du monde comme une sorte d'acte de vengeance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire
ça ?
Qu'est-ce que ça véhicule ?
Et en même temps, ça dégrade la révolution libyenne, ça dégrade la révolte populaire.
Parce que ça souille dans tous les sens du terme, en réalité.
Tout
à fait. Et puis, ça ne laisse pas lieu à la place de la justice, finalement, au sens où on l'entend dans un état de droit, c'est-à-dire l'existence d'un procès pénal public.
Alors, ce procès, on l'a eu à Nuremberg.
On l'a eu à Nuremberg.
Et à Nuremberg, il y a eu, alors vous écrivez dans ce livre, tout un processus médico-légal où on a respecté à la lettre l'exécution comme elle devrait ou aurait dû se passer.
Oui, alors c'est l'historien Nicolas Patin qui nous parle du cas de la pendaison des hauts dignitaires nazis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est vrai que ces morts-là s'inscrivent dans le cadre d'exécutions dites judiciaires, hein, c'est-à-dire et la plupart du temps par pendaison publique, comme il l'explique, à une époque où la publicité de la pendaison n'était plus une pratique commune.
Donc une dérogation.
Exactement. Et dans les cas où les pendaisons n'étaient pas publiques, ce que l'on rendait public par voie de l'image, donc l'importance de la photographie déjà à l'époque, on rendait public la dépouille du bourreau pendu en huis clos, si j'ose dire, pour marquer, vous savez, l'histoire de la preuve par l'image, la preuve par l'image de la mort.
Qui naît à Nuremberg, d'ailleurs, comme le dit Christian Delage.
Absolument, et la fonction de l'image sur laquelle il est toujours extrêmement intéressant de travailler, et les usages politiques aussi de la médiatisation et de l'image qui prouve la mort est extrêmement importante.
Alors, l'image qui prouve la mort et l'image qui montre un corps. Et alors, dans le cas de Nuremberg, il y a un cliché de ces corps habillés et nus.
Absolument.
Comme si montrer ces corps nus, c'était montrer, dans le fond, on les a déshabillés du pouvoir, radicalement.
Oui, c'est ça. Bon, c'est aussi une manière, d'aucuns diraient que c'est une manière d'humaniser le bourreau, hein, parce que le bourreau nu, dans son plus simple apparat, ça peut renvoyer à deux sensations, une sensation aussi d'humiliation, c'est-à-dire ce déshabillage politique, mais c'est aussi, au fond, une manière de rappeler qu'il s'agit, malgré tout, d'êtres humains, en fait. Et c'est souvent, on constate, dans la réaction auprès des victimes, au lendemain, par exemple, de mort naturelle du bourreau, c'est-à-dire d'un bourreau qui s'échappe, en fait, par la mort, soit de la justice, soit de sa condition, c'est souvent perçu comme un sentiment d'injustice parce que c'est gênant que le bourreau ait le droit, le bourreau, vous voyez, le lapsus, parce que c'est intéressant comme auprès de la plupart des victimes, la mort naturelle du bourreau est perçue comme quelque chose, en fait, dont il n'aurait pas droit à mourir en paix. Naturellement, il faudrait provoquer sa mort.
C'est une mort échappatoire, c'est la mort de Milosevic.
Alors, le cas de Milosevic est passionnant de ce point de vue-là. Oui. Absolument passionnant. Souvenez-vous, nous sommes à quoi ? Une quarantaine d'heures du prononcé de son jugement par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à La Haye. Après des années d'un procès hyper médiatisé, on s'en souvient tous. Après des années où nous avions Milosevic face à ses juges pénaux internationaux en train de dire « ce tribunal est invalide, je n'en reconnais pas la compétence ». Tout cela est une mascarade, donc il a défié constamment la justice internationale.
C'est un ultime défi que
imaginez-vous,
de partir avant les cas.
Une sorte de pied de nez incroyable.
C'est ça.
À 40 heures de son jugement, Florence Hartmann nous parle dans l'ouvrage du cas de Milosevic. Il disparaît naturellement à tel point que l'on suspecte en réalité qu'il se soit suicidé précisément pour échapper à la justice pénale dans une dernière pirouette quand même extraordinaire.
Mais alors, parfois, la mort naturelle, je pense à la mort du général Videla en Argentine, c'est l'occasion pour les victimes, au contraire, de se réhumaniser, de remontrer leur dignité, ou de montrer tout court la dignité qui leur a été refusée par le dictateur.
Et pourquoi leur avait-elle été refusée ? Par le biais de la pratique de la disparition, qui est quand même une politique criminelle tout à fait particulière dans la catégorie des crimes de masse. C'est-à-dire que là, les victimes, les familles des victimes, n'ont pas eu droit à récupérer le corps de leur mort.
La disparition, qui s'est dissipée, qui a été jetée en mer en ce qui concerne...
Qui a été la plupart du temps jetée en mer ou par ailleurs inhumée dans des lieux tenus secrets, dans des fosses communes que l'on découvre encore aujourd'hui en Argentine.
C'est ça.
Et donc tout à coup, que signifie la mort du bourreau responsable de disparition forcée massive dans le cadre d'une politique criminelle, lui-même meurt Que fait-on ? Est-ce qu'on doit l'enterrer ? Ne pas l'enterrer ? Où est-ce qu'on l'enterre ? Comment faire pour que sa sépulture ne devienne pas un lieu de culte ou un sanctuaire ? Alors, ça, c'est une problématique propre à chacun des bourreaux.
Ça,
hein,
c'est par ça. Ailleurs. Alors, on viendra sur la sépulture, mais pour en terminer avec le chapitre argentin, vous rappelez dans votre préface une lettre, vous citez une lettre des victimes qui est très émouvante parce que c'est une lettre qui dit bah, justement, on ne vous fera pas, on ne fera pas à votre corps ce que vous avez fait au corps des nôtres, en quelque sorte.
Oui, Antoine Garapon, vous me permettez de lire quelques lignes. Je vais lire un extrait de cette lettre qui a été rédigée par un journaliste argentin qui s'appelle Jorge Kostinger, qui a été rédigée 2 jours après le décès de Videla, donc en mai 2013. Et la lettre dit, c'est un extrait, « Famille Videla », donc elle s'adresse à la famille du dictateur défunt. « Voilà le corps. Sans requête en habeas corpus, le corps est là. Quelques papiers, et il est à vous. Emmenez l'enveloppe de votre parent. Vous disposez d'un corps. Vous constaterez que vous le recevez sans brûlure ni hématome. Nous aurions pu le frapper au moins. Il ne l'aurait pas volé. Mais nous préférons ne pas faire ce qu'a fait ce corps que vous allez enterrer. Nous ne lui avons pas posé son enfant sur la poitrine pendant qu'on lui appliquait la GGN. Nous ne l'avons pas jeté depuis un avion. Nous ne l'avons pas encouragé à balancer à coups de décharge électrique. Nous ne l'avons pas fusillé pour prétendre qu'il est mort dans un affrontement. Nous ne l'avons pas coulé dans du béton. Nous ne l'avons pas enterré n'importe où, sous X. Nous ne lui avons pas volé ses petits-enfants. Voilà le corps. Il est à vous. Et donc, vous voyez qu'au travers de ces lettres, au fond, tout est dit. Elles résument un ensemble d'enjeux que véhiculent ces corps morts.
Qui ont été l'égrenage de toutes les horreurs qu'a connues l'Argentine.
Absolument.
Sous la présidence de Videla.
Exactement. Et ce que disent ces mots, finalement, je crois, si l'on devait résumer, ça serait que probablement que la meilleure manière de lutter contre l'arbitraire et la violence, c'est de refuser de les reproduire.
Bien sûr, mais ce qui est intéressant dans le cas de Videla, ce que j'ai appris d'ailleurs en vous lisant, c'est qu'il a été enterré sous un faux nom.
Il
par
a
la
été
famille.
Oui, dans un en plus sur un territoire qui ne soit pas qui n'est pas un cimetière public, parce qu'en fait initialement la famille souhaitait l'inhumer dans le cimetière de sa ville natale à Mercedes, et le souci immédiat, ce que ça a généré comme débat très très vif au sein de la société argentine, c'est que se trouvait dans ce même cimetière en fait le corps de certaines de ses victimes qui entre-temps avaient été retrouvées et identifiées, et il était hors de question
et réinhumé.
Et il était hors de question pour la famille de ses victimes, d'accepter en quelque sorte de souiller le territoire de ce cimetière public par le corps du bourreau responsable de ses disparus.
On est toujours dans le registre très profond de la souillure, de la pureté, comme si les morts continuaient le combat des vivants.
Comme si les morts continuaient le combat des vivants, ou comme si les vivants refusaient de donner la parole à un mort qui a pourtant une parole qui se transforme outre-tombe, au-delà du trépas. Les bourreaux et l'ensemble des bourreaux dont nous étudions la trajectoire au sein de cet ouvrage, en fait, ont tous une vie
post-mortem.
Post-mortem.
Une vie politique post-mortem, ça c'est extraordinaire.
C'est ça. Une vie politique. Alors, une vie politique qui prend des aspects parfois aussi d'ordre juridique ou des aspects tout à fait immatériels avec le maintien d'une sorte d'imaginaire magique autour de cette être comme Pol Pot.
Pol Pot,
absolument.
Est-ce que vous pouvez raconter à nos auditeurs ce chapitre, là aussi saisissant, de la seconde vie de Pol Pot,
oui,
après son inhumation?
C'est vrai que c'est Anne-Yvonne Guillou qui nous parle, Antoine Garapon, de ce cas tout à fait particulier de Pol Pot, dont on a un cénotaphe, hein, c'est-à-dire qu'en fait une absence de restes humains.
Bon. Oui, parce que ses cendres ont été dispersées dans un lac.
Absolument. Il a fait l'objet d'une crémation et ses cendres ont été dispersées dans un lac. Il y a donc ce cénotaphe qui se trouve aux abords, nous explique-t-elle, d'un casino. Alors, elle est anthropologue, donc son texte est vraiment très intéressant parce qu'on a vraiment un visuel, en quelque sorte, sur le terrain dans lequel passe ça.
Et c'est là encore, ce voisinage du supermarché ou du casino qui est incroyable.
C'est ça, du supermarché, de l'argent et puis de cette forme de tourisme aussi.
De la modernité qu'il a refusée, que sa politique refusait.
Absolument. Et il se retrouve là, en quelque sorte, symboliquement, et on s'aperçoit que ce lieu tout à fait particulier, fait l'objet de pratiques rituelles très singulières, très propres au contexte qui est celui-ci, et que dès Nicod, l'anthropologue
Annie Van Leeuwen. Et qui ne sont pas politiques.
Et qui ne sont pas politiques, qui sont autres, qui sont de l'ordre de la magie, en quelque sorte. Donc, vous voyez, parfois, la survie immatérielle du bourreau peut avoir une puissance qui dépasse ce que l'on peut imaginer au
départ. Parce que les bourreaux, souvent les dictateurs, programment, alors je pense à Franco, programment leur mort, leur fin de vie, leur inhumation, leur funérailles de manière grandiose. Mais ça ne se passe jamais complètement comme ils le souhaitent, en tout cas pas dans le long terme.
Franco est un absolument. Merci de parler de Franco, parce qu'alors le cas de Franco est aussi absolument singulier. On a là un bourreau qui a orchestré du début à la fin sa fin, sa
oui,
mort,
sauf
à
que...
tel point d'être maintenu en vie
oui.
pendant un certain temps avant d'être déclaré mort. Et ses restes gisent aujourd'hui au sein d'une basilique monumentale. On peut parler d'une monumentalisation du bourreau. Alors c'est tout l'inverse des autres cas de figure que nous avions, à l'exception de Talat Pacha. Donc Talat Pacha, sur lequel nous reviendrons peut-être, et Franco, sont les deux bourreaux, si j'ose dire, dans le livre, qui sont monumentalisés, c'est-à-dire qui font l'objet d'une patrimonialisation.
Franco est-il un bourreau ? C'est cette catégorie, il fallait choisir un titre.
Alors qu'est-ce qu'un bourreau ?
Un bourreau, alors c'est le problème de l'impossibilité de traduire l'anglais
oui, c'est
perpetrator,
ça. Perpetrator.
Exactement. Qui veut dire celui qui a commis le crime. Franco est un dictateur, c'est un chef de guerre impitoyable,
oui.
qui a gagné une guerre sanglante. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut l'assimiler, mais qui est le vainqueur, et qui d'ailleurs a demandé aux vaincus, aux républicains, de construire Valle de los Caídos.
C'est-à-dire que l'ironie terrifiante, c'est celle-là, c'est-à-dire que la basilique, pardonnez-moi, dans laquelle donc c'est une cathédrale gigantissime pas loin de Madrid que l'on peut visiter, qui est d'ailleurs très visitée, c'est un lieu très visité, très touristique. Franco est dans un lieu dont il a orchestré la construction de son vivant et qui a été construite par des prisonniers républicains quand même. Et ce lieu s'appelle El Valle de los Caídos, donc la vallée de ceux qui sont tombés. Le destin de ces restes fait l'objet de débats extrêmement importants au jour d'aujourd'hui en Espagne, toujours, absolument. Est-ce qu'il est un bourreau ? Oui, dans la mesure où nous avons pris le parti d'utiliser le mot bourreau dans cet ouvrage, non pas dans son acception fonctionnelle classique, c'est-à-dire non pas au sens d'exécuteur de la haute justice, mais au sens anglais intraduisible, comme vous le disiez, Antoine Garapon, intraduisible en français, de perpetrator, mais plus singulièrement au sens de perpetrator dans les genocide studies, c'est-à-dire au sein des travaux relatifs au génocide et aux violences extrêmes. Donc, dans ce contexte-là, perpetrator, donc c'est celui qui exécute ou commandite des crimes de masse. C'est-à-dire crimes contre l'humanité, génocide, crimes de guerre. Il s'agit aussi d'agents du terrorisme international, parce que nous avons un papier sur Ben Laden. Et Franco, bien entendu, de ce point de vue-là, est un criminel de masse.
Alors, je ne rentrerai pas, parce que ce n'est pas notre
sujet.
Vous
n'êtes pas d'accord ?
Non, je ne suis pas complètement d'accord, dans le sens où je crois que c'est un dictateur, qui a renversé un régime légitime, issu des urnes, que c'est une guerre qui fut sanglante, qui fut terriblement sanglante, qui a tout ce que nous savons dans ses aspects les plus détestables, mais ce n'est pas le crime de guerre comme Pol Pot, il n'y a pas cette absurdité, cette folie du Pol Pot. Mais je referme immédiatement la parenthèse pour qu'on fasse aussi une autre incursion, Mussolini.
Oui.
Mussolini, autre figure, Mussolini.
Absolument.
C'est un dictateur, c'est un fasciste, contribué à définir le fascisme. Il a une fin extrêmement triste, c'est-à-dire que...
Une fin, pardonnez-moi de le dire comme ça, Antoine Garapon, mais en quelque sorte très cinématographique, c'est-à-dire qu'elle est incroyable, sa fin. Elle est faite de chapitres qui s'enchaînent aussi délirants les uns que les autres.
Alors, est-ce que vous pouvez raconter
Alors,
à nos auditeurs...
il est fusillé avec sa maîtresse sur la place publique, son corps est supplicié.
Un peu à sauvette, non, quand
oui,
même, non
oui,
parce qu'on
et
a
puis,
peur, on a
et
peur.
Et puis,
on a
dans une... là aussi, hein, un moment évidemment tout à fait cathartique, c'est un historien merveilleux qui nous fait l'honneur de faire ce texte sur Mussolini, Didier Musitlac, un spécialiste du fascisme italien, qui nous explique cette multidestinée dans une trajectoire très chaotique de ce corps mort de Mussolini, donc qui est fusillé sur la place publique. Il y a ensuite qui fait l'objet de multiples autopsies.
Multiples autopsies. Absolument. Qui est photographié.
Qui est photographié.
Bon, photographie les autopsies.
Absolument. Qui est inhumé. Qui fera l'objet d'un vol. Son cadavre va quand même être volé.
Subtilisé.
Absolument, subtilisé. Il va être retrouvé. Il va être réinhumé. Enfin, et jusqu'aujourd'hui.
En 2005.
Où persiste en fait toute une controverse autour de la question à nouveau de la destinée de ses restes, sa famille souhaitant l'inhumer ailleurs.
À Rome.
Donc, oui, c'est ça. C'est ça, à Rome, si je me souviens bien.
Il était de Forlì, mais c'est à Rome.
Donc le débat continue.
Et ce n'est pas tranché par le Parlement italien.
Non, pas encore à ma connaissance. Le débat est toujours aussi vif. Et c'est une sorte... Vous voyez la vie politique, lorsqu'on parlait de la vie politique outre-tombe ces figures.
On pense à cette fameuse phrase du Guise, il est plus grand mort que vif. Et on a l'impression qu'on a peur. C'est les restes de Mussolini continuent d'inquiéter, de tourmenter
toujours
le peuple italien.
Mais dans la plupart des cas, à vrai dire, les restes des bourreaux continuent d'inquiéter et d'embarrasser les sociétés au sein desquelles la mort s'inscrit, voire même au-delà des frontières, Antoine Garapon. C'est-à-dire que vous connaissez bien les théories complotistes, les rumeurs, les mythes qui circulent jusqu'aujourd'hui autour de la fin d'Hitler. Encore l'autre jour, je lisais le 17 octobre, le gouvernement autrichien a décidé d'exproprier, une bataille judiciaire qui dure depuis 2011, exproprier la maison d'enfance d'Hitler en Autriche et la raser. Donc vous voyez, là on parle du corps, mais il y a aussi les lieux de vie de ces bourreaux qui jusqu'aujourd'hui font l'objet de controverses extrêmement vives.
En l'occurrence, c'est pas la mort, c'est la naissance.
C'est son enfance, sa naissance et son début de vie, absolument. Mais c'est un lieu, et c'est un espace, et c'est un espace pas comme les autres.
Et donc, c'est un espace qui va ancrer dans le temps.
C'est ça.
Et dans l'espace, et donc dans le temps. Et ce qu'ont voulu les Américains en jetant les cendres de Ben Laden depuis un avion, on a toujours d'ailleurs ce parallèle entre
étonnant,
la mort.
Hein.
C'est tout à fait étonnant. C'est comme la clandestinité de la tombe de Videla. C'est-à-dire qu'il a condamné à la clandestinité, toutes ces tortures étaient clandestines, et lui-même aura une fin clandestine.
Il est relégué hors cimetière, comme je dis, ou alors dans un cimetière, en l'occurrence là c'est un cimetière, mais un cimetière privé, qui pour la petite, voyez comme la vie peut être ironique parfois, le cimetière s'appelle Mémorial. Bon.
Alors, vous avez choisi comme musique Sevan Garibian, La jeune fille et la mort de Schubert, que nous entendions interprétée par le quatuor Verdi. La jeune fille et la mort, mais là, le dictateur n'est jamais une jeune fille. Le dictateur est toujours un homme, d'ailleurs. Je constate que dans tous les cas que vous avez étudiés,
ce sont toujours des hommes.
Il s'agit toujours d'hommes et dans lesquels la mort surdétermine tout. Je pense à l'importance de l'autopsie. Le corps raconte des choses. Le corps raconte.
Le corps parle toujours, Antoine Garapon.
Bien sûr.
Toujours.
Bien sûr.
Alors, le corps véhicule, surtout ces corps-là, hein, qui symbolisent le corps politique, véhicule des enjeux considérables, nous en parlions tout à l'heure, et Plus pragmatiquement, de manière encore plus tangible, le corps parle toujours et la science réussit de plus en plus à le faire parler.
Qu'est-ce qu'elle fait dire ? Elle contribue à écrire l'histoire, la science ? Cette autopsie, ce travail sur le corps va permettre...
C'est une belle question. Je crois que l'on pourrait dire aujourd'hui, avec notamment l'essor de la science forensique, les usages des tests ADN, etc., Antoine Garapon, que je crois que oui, la science... contribue, en tout cas, à une meilleure compréhension de l'histoire et probablement aussi à la production d'une nouvelle forme d'archive.
Oui, une nouvelle forme d'archive, mais en l'occurrence, moi, ce qui me frappe, c'est que la science peut aussi être une forme de violence. On l'a dit, les anthropologues espagnols l'ont dit à propos de Franco, il fallait organiser sa succession, on l'a quand même maintenu dans des conditions atroces pendant un mois.
En
faisant baisser la température, enfin bref, des tourmentes. Absolument.
Bon, là, c'était pas pour faire parler le corps à proprement parler.
Non, mais peut-être
c'était pour orchestrer la fin.
Orchestrer la fin et se venger, en quelque sorte. Il y avait une vengeance contre le corps, contre le père tyrannique. Je ne veux pas faire de psychanalyse de comptoir, mais on pense à Totem et Tabou, c'est-à-dire les fils se révoltent et se vengent sur le corps du père cruel.
Oui, je crois, mais je pense aussi que c'est une manière de contrôler, justement, la vie et la mort et de contrôler sa succession. C'est-à-dire qu'il y avait une question de timing qui était très, très importante symboliquement, qui se jouait là.
Est-ce qu'on pourrait dire que plus la mort est naturelle et se passe dans de bonnes conditions, entre guillemets, plus le repos est tranquille, alors que...
Le repos de qui ?
Du corps du bourreau ou du dictateur.
Oui, parce que le repos de la société, je ne pense pas qu'il soit forcément garanti en cas de mort naturelle du bourreau.
Non, au contraire, il est frustré.
Ouais, ça frustre, absolument. Ça frustre. Mais vous disiez que du point de vue du bourreau... Je ne sais pas.
On va prendre un exemple qui vous est particulièrement cher, qui est celui de l'assassinat de Talat Pasha à Berlin. Est-ce que vous pouvez raconter les circonstances ? Parce qu'elles sont quand même assez, assez extraordinaires, vu qu'elles se déroulent à Berlin, loin du génocide arménien.
Oui.
Et c'est pour ça, c'est pourtant de cela qu'il s'agit, Sébane Garibian.
Absolument, Antoine Garapon, mais pas sur n'importe quel territoire, sur le territoire allemand, sachant que l'Allemagne était l'alliée de l'Empire ottoman pendant le génocide des Arméniens. Donc là aussi, vous voyez la question des territoires, comme elle n'est jamais anodine. Et le corps est un territoire. Donc là, on a le corps du bourreau qui représente tout un territoire en soi, lui-même sur le territoire d'alliés qui l'emmène avec lui. Tout à fait. Alors Talat Pasha, en deux mots, son destin, quel est-il ? Donc il s'agit de l'un des principaux instigateurs du génocide des Arméniens. Il sera jugé par contumace, donc en son absence, lors des procès de Constantinople de 1919-1920, qui ont lieu immédiatement après le génocide.
Échec, d'ailleurs.
Qui sont d'une certaine manière un échec, d'une autre manière une source d'informations et d'archives extraordinaires pour le travail historiographique, absolument. Donc d'un point de vue politique, c'est un échec, mais d'un point de vue historiographique, c'est une source extraordinaire. Les archives judiciaires de ces procès sont extrêmement riches. Qu'il en soit, il est condamné. Il est condamné à mort, donc par Talat Pasha, par un tribunal de son propre pays, de son propre territoire. Sauf qu'il était exilé, qu'il était réfugié où ? En Allemagne. Donc je vous disais, Allemagne, alliée de l'Empire ottoman. Et il sera en définitive assassiné en 1921, donc peu après. par un jeune Soromonteilerian, un jeune vengeur, un justicier vengeur, comme on pourrait dire. Et alors, qu'est-ce qui se passe de ce corps et
Avant d'en arriver à ce corps, je voudrais qu'on vienne, parce que ça, en vous lisant, Sébane Garibian, c'était quand même absolument saisissant. Quels sont les motifs donnés par l'assassin de cette vengeance qui est ressentie par lui comme un devoir ?
Qui est ressenti... Ah oui, je vous faites référence au cadavre de sa mère.
Il pense au cadavre de sa mère qui revient.
C'est ça.
Et c'est le corps de sa mère qui lui demande cela.
Qui lui demande de venger son peuple, c'est-à-dire de tuer le bourreau qui a échappé à la mort judiciaire par son exil, par sa fuite, et en fait de faire justice en lui donnant la mort.
Donc là aussi, morts continuent de parler aux vivants.
C'est ça. Vous voyez le lien entre les morts et les vivants, constamment. C'est pour ça qu'il est extrêmement intéressant de travailler sur les morts. C'est toujours en lien avec les vivants. Et donc, Taylorian, ce jeune homme, lors de son procès d'assises à Berlin, il sera acquitté.
En
1921, il sera acquitté par les juges allemands. Qu'est-ce qu'il dit à ses juges ? Il dit, mais c'est le cadavre de ma mère qui m'a demandé de tuer le bourreau de mon peuple. Mais il dit aussi autre chose qui est extrêmement intéressant. Et c'est quelque chose que C'est un moment de l'histoire auquel fera référence d'ailleurs à la fois Raphaël Lemkin et à la fois Hannah Arendt, respectivement dans des textes
connus. Parce que ça marque beaucoup l'opinion allemande, ce
oui,
procès.
Oui, c'est ça. C'est que Taylorian, par son geste vengeur, dit « En fait, je veux une tribune ». C'est une manière de faire parler des actes du bourreau. Et c'est ce qui se produit, c'est-à-dire que le procès de l'assassin vengeur devient en quelque sorte le procès du bourreau. Le vengeur est acquitté et cette tribune judiciaire qui lui est offerte en plein cœur de l'Europe, quand même, ce n'est pas rien à ce moment-là, c'est une tribune qui donne lieu à l'écoute et à la découverte de nombre de témoignages extrêmement précieux, extrêmement nouveaux.
Mais Sévan Garibian l'arrête, l'histoire ne s'arrête pas là.
Et l'histoire ne s'arrête pas là, Antoine Garapon. Qu'est-ce qui se passe par la suite ? Donc Talat Pacha...
Que devient le corps,
puisqu'on parle de la vie post-mortem de ses dépouilles. Bon. Talat Pacha est inhumé dans un cimetière, donc en Allemagne, à Berlin. Il aura droit à des funérailles, etc. C'est bon. Et en 1943... donc plus de 20 ans plus tard, ses restes sont retournés par Hitler à la Turquie. Et il est aujourd'hui inhumé dans une tombe qui se trouve en plein cœur d'Istanbul, que l'on peut aller visiter, que je suis allée visiter, sur la colline des Héros de la Liberté. Donc vous voyez, nous parlions de Franco tout à l'heure. Là encore, nous avons avec Talat Pacha et ses restes restitués par Hitler à la Turquie moderne, une sorte de monumentalisation du bourreau. Ce sont les deux seuls cas dans l'ouvrage où on a une patrimonialisation par l'État
de ses corps. Qu'est-ce que vous entendez par patrimonialisation ?
C'est-à-dire que c'est un héritage qui est pris en charge, Antoine Garapon, par l'État successeur de l'État criminel. Et ce qui n'est pas anodin, puisqu'il s'agit dans les deux cas d'États où l'on peut parler d'un déni des crimes du passé.
Oui, absolument.
Et dans l'Espagne contemporaine, comme dans la Turquie d'aujourd'hui, il existe un déni des crimes du passé. Et ce déni rend en quelque sorte possible une place tout à fait singulière au bourreau qui est considéré comme un héros et pas du tout comme un paria ou comme un corps qui souillerait l'endroit où il est inhumé.
Comme si par la célébration que lui voue le peuple turc, ou ceux qui, il y avait une sorte d'annulation de ce verdict de Berlin.
En quelque sorte.
Et puis, un rebondissement post-mortem de la vie du bourreau.
C'est ça. Et puis, il est considéré comme un martyr, puisqu'il a été assassiné. Il est considéré comme un martyr.
C'est ça le risque, c'est qu'il n'y a pas de bonne mort, il n'y a pas de belle mort pour un bourreau.
Je crois que c'est ça. Au fond, il n'y a pas de bonne mort, ni pour le bourreau Antoine Garapon, ni, je crois, pour les victimes. Parce qu'au fond, ce que montre aussi cet ouvrage, c'est que, quelles que soient les modalités de la mort ou de la mise à mort, lorsque c'est une mise à mort du bourreau, quel que soit le traitement de sa dépouille, au fond, d'abord, le risque de culte existe toujours. On peut plus ou moins le juguler, mais on ne peut pas garantir son inexistence. Ça, c'est une chose. Ensuite, la vie post-mortem, qu'elle soit juridique, politique ou immatérielle de ces bourreaux, persiste. Donc, vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte ? Quelle serait la bonne solution, la bonne mort, la bonne sépulture, la bonne manière de traiter de ces vies post-mortem, de ces dépouilles si singulières ?
Sévan Garibian, dans le crime de masse, c'est une vérité qui est consensuelle, c'est que le crime de masse, c'est une manière de tuer la mort. C'est-à-dire, c'est une manière de... Et d'ailleurs, l'humanité, contrairement à ce qu'on pense, ça ne vient pas de homo, homini, c'est pas l'hominité, mais c'est l'humanité, une référence à l'humus, ce qui doit retourner à la terre, ce qui doit être célébré et qui mérite en quelque sorte une sépulture. Mais le crime de masse, c'est une négation de la mort des victimes et dans le fond, c'est souvent une négation qui va se retourner sur le corps du bourreau. Il ne va pas pouvoir jouir du repos.
De la paix, hein, quand on dit paix à son âme, l'âme reste sans paix,
absolument.
Mais je crois que malheureusement, il est difficile aussi pour les victimes et leurs descendants de trouver cette paix, même après la mort du bourreau. C'est-à-dire qu'il me semble que votre remarque, qui est très belle, j'aime beaucoup cette image de tuer la mort. C'est vrai que lorsque l'on parle de ces configurations tout à fait particulières, qui sont des configurations de crimes de masse, nous ne sommes pas en train de parler de crimes communs de tous les jours du quotidien. On est en train de parler effectivement de processus d'extermination, de massacre, bon, et de violations extrêmes à la dignité humaine. Donc c'est une manière, oui, de tuer la mort. Mais je crois, comme vous disiez, Antoine Garapon, que les bourreaux ne trouvent pas la paix de la même manière, malheureusement, que les victimes ont du mal à trouver la paix, même au-delà de la mort de leur bourreau.
Bien sûr, en raison. Et alors, vous avez cette remarque sur la durée, parce que finalement, si on prend l'exemple de la France et de la Révolution française, les révolutionnaires, sauf erreur, sont venus à Saint-Denis pour profaner la sépulture des rois de France en 1792 ou 93, je crois. C'est-à-dire que, et donc certains souverains étaient morts depuis des siècles.
Oui.
C'est-à-dire que, dans le fond, la
ça traverse le temps. Absolument. Vous avez saisi une des choses essentielles qui traverse au fond cet ouvrage dont nous parlons, Antoine Garapon, c'est que nous sommes dans des contextes et des configurations qui dépassent les frontières et qui dépassent les espaces et donc aussi les frontières du temps. Ça traverse le temps, comme vous dites. Et dans il y a énormément de choses, absolument. De la même manière que pour les juristes, il est courant et compréhensible de dire que la répression de ces crimes de masse doit être imprescriptible, c'est-à-dire hors frontière du temps. On devrait pouvoir les poursuivre, quel que soit le moment, en tout cas jusqu'à la mort des responsables, parce qu'une fois qu'ils sont morts, justement, ils échappent à la justice.
Il y a une sorte de frontière du droit pénal, mais qui n'est pas une frontière pour la mémoire, pas une frontière pour la justice mémorielle.
Exactement. Et donc, ce « ça » qui traverse le temps, on peut y mettre énormément de choses dans ce « ça ». Ça contient énormément de choses.
Et dans le fond, c'est infini. Si on prend l'exemple de l'histoire de France, il a fallu attendre... Alors, je ne sais pas si le corps de Philippe Auguste se trouvait à Saint-Denis, mais finalement, on n'est jamais sûr de rien. Vous terminez votre préface, Sévane Garibian, par cette citation de Garcia Marquez que j'ai trouvée très très belle. Vous dites, il parle du temps incalculable de son éternité.
De son éternité, en parlant du bourreau.
Voilà,
oui,
c'est
absolument.
Ça. Le temps incalculable de son éternité. Là, il y a quelque chose qui donne à penser et qui peut-être devrait être médité par les bourreaux de leur vivant. Savoir que l'injustice continuera de tourmenter leur destin post-mortem.
Vous ne pensez pas, Antoine Garapon, qu'ils en ont fort probablement conscience ? Parce qu'au fond, lorsque l'on met en place une politique criminelle d'une telle ampleur, d'une telle échelle, je pense qu'on a quand même conscience du fait que son impact et ses effets vont être transgénérationnels.
Oui, et puis il y a peut-être qu'ils n'ont pas conscience, ce qui caractérise un dictateur comme un bourreau, d'ailleurs, dans la situation de torture, c'est la toute-puissance.
C'est ça.
La toute-puissance sur autrui.
Oui.
Et dans le fond, la mort les réduit à une grande impuissance, du fait qu'ils sont morts, et en même temps qu'ils continueront de vivre dans les mémoires. C'est ça le paradoxe.
C'est ça
le paradoxe de la mort du bourreau.
C'est un vrai paradoxe. C'est-à-dire que la mort du bourreau marque la fin du régime qu'il incarne et de la politique criminelle qu'il menait. Mais la mort du bourreau ne garantit pas la fin de vie post-mortem.
Qui correspond à une véritable éternité, ou du moins
incalculable, comme vous disiez tout à l'heure, un temps incalculable.
Alors, c'est redoublé, et on le sent dans ce livre, c'est redoublé par l'apparition de l'image et la photo.
Oui.
C'est-à-dire la photo, le cliché,
le
cliché de l'autopsie de Mussolini, mais c'est aussi la vidéo insoutenable de
Kadhafi. Les clichés des nazis, déjà,
le cliché
après,
des nazis,
tout à fait.
Des nazis.
Vous parliez de Kadhafi, on s'en souvient tous de cette image. Il y a quelques jours, cela faisait 5 ans que Kadhafi avait été lynché, en octobre, là, octobre 2016. Et on a vu passer sur Twitter, pour la petite histoire, le témoignage du photographe qui avait chopé ce cliché. Il avait saisi le cliché où l'on voyait le visage de Kadhafi. Tu méfies, vous vous souvenez de ce visage? C'est une image très très forte que nous avons tous vue, qui a été ultra médiatisée. Laquelle image provenait en fait d'un téléphone, enfin d'un écran. Donc le photographe a fait photographier l'écran qui montrait le visage du bourreau en train de mourir à l'agonie de surcroît. Mais Saddam Hussein aussi, souvenez-vous, il a été pendu à huis clos, c'était pas une pendaison publique, mais une image clandestine de sa pendaison avait circulé sur YouTube assez rapidement, où on voit clairement Saddam Hussein et...
Mais ce qui est terrible, c'est que quand je vois personnellement, en ce qui me concerne cette photo de Kadhafi, oui, ou de Saddam Hussein, je dis pas que j'éprouve une sorte de compassion, mais tout d'un coup, effectivement, il est redevenu un homme comme les autres.
Ah, ça l'humanise, vous trouvez? Vous avez ressenti ça?
Je ressens ça, et je ressens que ça dégrade, n'en parlons pas de mots trop forts, ça dégrade l'attitude des gens qui lui refusent la justice, parce qu'ils sont, en quelque sorte, ils ont sombré dans l'indifférenciation de la violence, dans cette mort vengeresse dont vous parlez.
C'est la mort vengeance. On parle de trois types de morts dans l'ouvrage. La mort échappatoire, dont nous parliez tout à l'heure, Milosevic typiquement, ou d'autres qui meurent naturellement, Pol Pot, Franco, Pinochet, nous n'avons pas parlé de Pinochet, mais Pinochet également, qui échappe à la justice, hein, après des déboires judiciaires très connus.
Bref, il va être enterré ou ça?
Alors lui, il finit pareil à être inhumé au fond sur un terrain familial, donc privé. Rosana Alija, une collègue juriste espagnole qui a écrit le texte sur Franco et Pinochet, a découvert que finalement Pinochet se trouve aujourd'hui entouré de plants de cannabis, pour la petite histoire. Voilà. Alors que Pinochet rêvait de son vivant, Antoine Garapon, et il l'a dit, donc c'est pas une interprétation, c'est un fait, Pinochet rêvait de finir comme Franco. Hein, le pauvre a fini dans un plan
dans une basilique.
Une basilique à sa mémoire absolument gigantissime, hyper visitée.
Inspiré effectivement de l'exemple de Franco.
Oui, absolument. Ah oui. Absolument. Et il avait visité celui-là, il avait dit « Moi, je veux la même chose pour moi ». Et il finira dans un plan de cannabis perdu au milieu de nulle part, sur un terrain familial. Donc vous voyez, de nouveau, on parlait tout à l'heure aussi des cimetières. Les infâmes, on les veut hors du cimetière. Hein. C'est comme...
Ils ne peuvent pas être dans la cité des morts.
Ça me fait penser à un très beau texte de Michel Porret, un historien justement de l'Université de Genève, a travaillé sur ce phénomène-là, c'est-à-dire que ceux que l'on appelait les infâmes à l'ancien régime, c'est-à-dire souvenez-vous, les tâches de purgation sociale, avaient une fin hors cimetière. Hein. Donc on retrouve un petit peu ça en Antoine Garapon. Mais pour revenir aux différentes morts, la mort échappatoire, on en a parlé. La mort vengeance, on en parle maintenant avec Kadhafi et ces tourments extrêmement forts, ces supplices faits au corps du bourreau qui meurt, qui agonise en direct, en quelque sorte. Et puis la mort sentence, évidemment, nous en avons parlé aussi tout à l'heure, avec les pendaisons comme châtiment post-procès pénal. Mais dans tous ces cas, une fois de plus, vous voyez bien que la mort n'est pas, ces corps ne, la mort n'est pas anodine, parce que l'on parle de corps qui ne sont pas anodins.
Bien sûr. Mais je pense aussi à cette image.
Alors l'image et la dégradation dont vous parlez tout à l'heure.
Et je pense à l'image de Mussolini pendu.
Ah, par les pieds, vous vous souvenez avec ça.
Par les pieds. Oui. Qui, comme vous le savez...
Ceausescu, souvenez-vous de Ceausescu, les époux Ceausescu aussi.
Oui, hein. Tout à fait. Et c'est une manière de... C'est toujours cette idée d'une dégradation, d'une vengeance qui est faite sur le corps du bourreau. Alors, Sévan Garibian, cette émission arrive près de son terme. Vous êtes une spécialiste des crimes de masse.
Oui.
Et donc, vous êtes une spécialiste et aussi de la mémoire. Qu'est-ce que cette étude, qu'est-ce que ça vous a enseigné finalement? En quoi cela enrichit notre compréhension du phénomène et de la justice des crimes de masse?
Alors, vous avez raison, Antoine Garapon, je travaille aussi beaucoup, alors de manière générale, sur les outils juridiques existants pour appréhender ce phénomène particulier.
Sur la dépouille du bourreau, il y a très peu.
Très peu de choses. Et ce que, finalement, cet ouvrage et sa conception, sa réalisation m'ont conforté, dans le sentiment que j'avais au préalable et le besoin même de le faire. Et ce sentiment qui est confirmé, c'est que nous avons besoin, nous, juristes, des autres disciplines pour mieux comprendre les enjeux qui entourent le phénomène criminel, et que le droit ne peut pas être le seul outil ou la seule réponse possible pour appréhender ces phénomènes de crimes de masse.
Ben oui, bien sûr, Sévan Garibian,
évidemment.
Parce que le droit s'arrête avec la vie du bourreau. Quoi, beaucoup de droits s'arrêtent avec la vie du bourreau.
Oui.
Le droit pénal,
oui.
Le droit, une partie
l'action
du droit
pénale.
Civil.
L'action pénale s'éteint avec la mort
sorte,
du bourreau. Mais le droit continue avec la survie des victimes. Oui, et les problématiques pas... juridiques continuent à nous habiter et à nous faire travailler, en particulier relativement, par exemple, aux usages juridiques de la mémoire.
Merci, Sévane Garibian.
Merci, Antoine Garapon.
Les discussions du soir, Sévane Garibian, Jehan-Richard Dufour, Corinne Amar. Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon.